Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
La guerre continue de faire rage en Syrie et le Saint-Siège s'engage aux côtés de la population qui souffre. Benoît XVI a envoyé dans la région le cardinal Robert Sarra, président du conseil pontifical Coronum. Nous entendrons son témoignage à son retour du Liban. La communauté de Thésée organise son étape du pèlerinage de confiance sur la terre au Rwanda à partir du 14 novembre prochain. 8000 jeunes sont attendus, dont 5000 Rwandais. Un des organisateurs nous parlera de cette initiative. Et puis nous parlerons de la 27e conférence internationale du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé. Elle se tient du 15 au 17 novembre à Rome. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. L'opposition syrienne est parvenue le 12 novembre à former une coalition unie pour présenter une alternative crédible au régime de Bachar al-Assad. Elle attend désormais une reconnaissance internationale à cette entité saluée par les Occidentaux. Sur le terrain, les troupes du régime ont intensifié leurs raids aériens contre des bastions rebelles dans le nord, tandis que les troupes au sol sont aux prises avec des insurgés à Damas et dans d'autres secteurs du pays. À Rome, c'est un homme ému qui est revenu du Liban après avoir rendu visite aux réfugiés syriens. Le cardinal Robert Sarra, président du conseil pontifical Coronum, a passé 3 jours dans le pays du Cèdre la semaine dernière. Envoyé en mission par Benoît XVI, il a témoigné auprès des victimes du conflit qui ensanglante la Syrie depuis 1 an et demi, de la proximité et de la solidarité du Saint-Siège et de toute l'Église catholique. Xavier Sartre l'a rencontré à son retour. Témoignage.
C'était un voyage émouvant. Émouvant surtout lorsque j'ai visité les camps. Des camps avec une population majoritairement composée de femmes et d'enfants parce que les maris sont restés au pays, soit pour garder la maison, soit sont engagés dans la guerre. Et donc voir cette foule de personnes sans eau, sans électricité, sans hygiène, avec l'approche de l'hiver, commençait déjà à faire froid, la pluie. Mais je vois quand même que le travail qui est fait par Caritas Liban est un travail extraordinaire. J'étais ému par une dame dans un camp qui venait d'avoir son enfant il y a 4 mois seulement. Il m'a dit prenez-le pour le sauver de cette situation. Mais comment prendre un enfant de 4 mois? Mais c'était très émouvant. Un autre cas aussi, une femme toute voilée qui venait dans l'archidiocèse de Sarlé, c'est tout à fait un peu au nord, et il a été bien accueilli et il s'est mis à pleurer. On lui a dit mais pourquoi tu pleures? Elle a répondu, voyez-vous, vous me traitez comme un être humain. Je retrouve ma dignité que je n'ai pas dans ma communauté religieuse musulmane. Et c'est dire que, voyez-vous, la charité que déploie l'Église catholique n'est pas seulement, si vous voulez, un secours humanitaire, mais également montrer à ceux qui souffrent qu'ils ont une dignité, car là où l'homme souffre, Dieu est là à ses côtés pour souffrir avec lui.
De vos rencontres avec les autorités libanaises, de vos rencontres avec les nonces apostoliques de la région, de tous les évêques, de toutes les personnes que vous avez pu rencontrer pendant ces quelques jours au Liban, est-ce que vous avez eu le sentiment que l'on demandait quelque chose de plus à l'Église catholique et au Saint-Siège en particulier, au-delà de cette aide humanitaire si cruciale?
Les autorités pensent, estiment, croient que le Saint-Siège pourrait étudier la possibilité de faire arrêter cette guerre, que le Saint-Père a une voix, qui a une autorité sur le plan international et que probablement son intervention, ses appels auprès des grandes puissances pourraient être entendus pour arrêter cette guerre. Pas par la violence, mais par la négociation. La plupart des personnes que j'ai rencontrées espèrent cette possible intervention du Saint-Père pour faire arrêter la guerre. Je sais que le Saint-Père s'y emploie parce que plusieurs fois, il a quand même élevé la voix pour appeler à la cessation de cette guerre, à la négociation et à la réconciliation.
Depuis votre retour du Liban, il y a maintenant une nouvelle structure de l'opposition qui réunit aussi bien le CNS plus d'autres mouvements de l'opposition. Que pensez-vous de cette évolution justement? Est-ce que vous pensez que c'est un bon pas pour essayer de négocier avec le pouvoir en place une solution à ce conflit ou bien est-ce que vous êtes très réservé?
Nous espérons que cette unification de l'opposition pourra peut-être faciliter une négociation, parce que jusqu'à présent, peut-être qu'on ne savait pas avec qui s'asseoir. Je pense que donc c'est un pas en avant. Je ne peux pas affirmer que c'est un pas positif, mais c'est quand même une situation nouvelle qui pourrait éventuellement contribuer à la recherche de la paix, en sachant qu'il y a des responsables identifiables avec lesquels on peut discuter. Mais je ne sais pas si nous acheminons réellement vers la pacification de ce pays. Le président syrien a dit qu'il veut mourir en Syrie. Et donc il est déterminé, je pense, à peut-être à négocier, mais pas avec n'importe qui.
Le nonce apostolique à Damas, Mgr Mario Zenari, accompagnait la mission du cardinal Robert Sarah, envoyé spécial du pape. Le prélat guinéen était aussi porteur d'une aide financière pour les réfugiés. À cette occasion, Benoît XVI a renouvelé son appel à toutes les parties en Syrie pour mettre fin à l'effroyable souffrance et pour qu'une solution de paix soit recherchée. Pour Mgr Zenari, cette visite la semaine dernière du cardinal Sarah au Liban représente un message de communion. Tous ont pris conscience de la nécessité d'une plus grande coordination entre les différentes agences catholiques internationales, la Caritas locale et les institutions. Justement à ce sujet, le 9 novembre dernier, au siège central de Caritas Liban, les 45 participants représentant la hiérarchie ainsi que les 26 organisations humanitaires ont tenu à remercier le pape pour l'intérêt qu'il porte au Moyen-Orient en général et à la Syrie en particulier. Les discussions des sujets abordés ont abouti aux recommandations suivantes. Continuer le travail social au bénéfice des populations vulnérables dans et en dehors de la Syrie et continuer les efforts visant à permettre aux enfants déplacés et réfugiés de continuer leur cursus scolaire. Une action qui passe par l'instauration d'un système de coordination efficace entre les organisations humanitaires catholiques pour unifier l'approche sur le terrain et leurs critères d'aide. La communauté de Thésée organise son étape du pèlerinage de confiance sur la terre au Rwanda à partir du 14 novembre. 8000 jeunes sont attendus, dont 5000 Rwandais. Lancée par frère Roger il y a une quarantaine d'années, cette initiative a pour but d'unir les jeunes au-delà de leurs différences culturelles ou sociales, mais aussi de les aider à s'impliquer davantage dans les paroisses locales ou dans des structures déjà existantes. La rencontre internationale des jeunes se déroulera donc à Kigali. Un choix qui prend tout son sens dans un pays où le souvenir du génocide de 1994 entre Hutu et Tutsi est encore vif. Frère Luc, résident à Nairobi au Kenya, est présent dans la capitale rwandaise depuis 5 mois pour la préparation de cette rencontre. Il raconte à Nadège Descrems ce qui a motivé le choix de ce pays.
Il y a 4 ans, il y a eu une telle rencontre internationale de jeunes à Nairobi au Kenya et 260 Rwandais y ont participé. Et ils ont été si marqués par cette expérience internationale de prière, de fraternité, qu'en rentrant chez eux, c'est eux qui en ont parlé à leurs responsables, aux aumôniers, aux évêques. Et quand nous sommes venus les visiter pour évaluer quelle avait été leur expérience, tout de suite nous avons été interpellés. Serait-il possible d'accueillir chez nous un jour une telle rencontre internationale ?
On ne peut pas parler de Rwanda sans parler du génocide. Comment vous intégrez la culture et l'histoire du pays dans ce pèlerinage ?
C'est les Rwandais eux-mêmes qui vont partager leur expérience. Nous, nous sommes accueillis là vraiment comme des invités, des hôtes. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est de voir le chemin qui a été fait depuis 18 ans, de voir tous ceux qui, après une expérience dramatique, ont pu cheminer, faire un effort et passer de la nuit, de la désespérance, à retrouver une paix, une liberté intérieure, et de pouvoir à nouveau construire, vivre, prier ensemble après donc un événement très dur.
Qu'est-ce qu'ils attendent exactement ? Qu'est-ce qu'ils espèrent ?
Sûrement de pouvoir montrer le Rwanda d'aujourd'hui, tout le travail de reconstruction, de développement qui s'est fait. Sûrement aussi, ils attendent un regard fraternel, d'amitié, de bienveillance pour retrouver une dignité, une fierté. On remarque aussi qu'il y a une très grande attente. On a été obligé de limiter les inscriptions, que ce soit des Rwandais, que ce soit des jeunes des pays voisins. C'est une situation à laquelle on n'est pas habitué de mettre des limites, de faire des quotas.
Des rencontres sont également prévues avec des témoins d'espérance. Qui sont-ils exactement ? Est-ce que ce sont des victimes du génocide qui témoignent ?
Il y a deux choses. Les matinées qui se passent de manière décentralisée dans plus de 50 quartiers préparés par les jeunes des paroisses locales. Là, le thème, c'est visiter et rencontrer des témoins d'espérance. Donc il s'agit, depuis déjà plusieurs mois, ils recherchent, ils identifient des femmes, des hommes qui, par leur engagement, ça peut être professionnel, ça peut être associatif, familial, ou dans la communauté d'église, se consacrant aux autres, rayonnent une joie, une lumière. Ça peut être un instituteur, une infirmière, un professionnel qui dit comment l'évangile inspire son travail. Ça peut être effectivement des gens qui ont vécu le génocide, des veuves qui se sont associées en coopérative, des orphelins qui sont devenus chefs de famille très très jeunes, qui ont dû assumer des grandes responsabilités très tôt. Mais ça peut être aussi des défis d'aujourd'hui, créer son propre emploi. Quand on est jeune, avec peu de moyens, venir en aide à des enfants de la rue, porter un projet de développement. Donc ça sera le thème des matinées de manière démultipliée, puisque les participants iront en petite équipe de 10-15 sur le terrain, dans le quartier, ils feront des déplacements. Mais dans les après-midi, donc là, il y a une série de propositions qui sont faites sur des thèmes différents. Ça va depuis justement visiter le site national du mémorial du génocide à Bissosi. Il y a des carrefours plus sur des thématiques de foi ou spirituelles, mais aussi des thèmes de société, différents défis auxquels les jeunes sont confrontés dans la région. Et là, il y a un intervenant qui propose des éléments de réflexion, des questions, et ensuite les jeunes sont invités à réfléchir d'abord personnellement et ensuite à partager en petits groupes.
Du 15 au 17 novembre prochain se tiendra la 27e conférence internationale du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé. Ce mardi avait lieu la conférence de presse de présentation de cet événement axé cette année sur le thème hôpitaux, lieu d'évangélisation, mission humaine et spirituelle. Plus de 650 participants en provenant de 60 pays devraient assister jeudi à la messe d'inauguration présidée par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone dans la basilique Saint-Pierre, ainsi qu'aux 3 journées de débats et d'interventions autour de divers thèmes tels que histoire et mission, éthique et humanisation, ou encore spiritualité et diaconie de la charité. L'occasion pour ces participants de réfléchir ensemble aux défis sociaux et éthiques posé au monde médical, le respect de la vie, de la conception à la mort, l'humanisation des soins, la protection sociale, la formation et le rôle des personnels de santé, ou encore l'accompagnement spirituel des patients. Pour Mgr Jean-Marie Mupendawatu, secrétaire du Dicaster, ces défis propres à toutes les structures médicales, y compris les 120 000 structures catholiques, ne peuvent se relever sans une vraie promotion de la culture de la santé. Il répondait aux questions de Manuela Afidji.
La culture de la santé, ce n'est rien d'autre que cette culture qui permet surtout aux professionnels de la santé d'avoir une approche intégrale de la personne et avoir le respect de chaque personne, surtout quand la personne est fragile, est malade, la personne est souffrante, et de se conformer donc à ce principe, à ce devoir, je dirais, déontologique et éthique. Et seulement, disons, avec cette culture, il est possible de faire des choix responsables et respectueux des malades et de toutes les personnes.
Particulièrement, vous pensez à tout ce qui touche à l'avortement, à l'euthanasie, etc. C'est là que cette culture de la santé a un rôle fondamental.
Prenez tous les problèmes posés par le diagnostic prénatal, qui est en fait une bonne chose, mais si vous avez une culture de la santé qui est une culture, disons, non en faveur de la vie, mais en faveur de la mort. Donc, même une pratique bonne comme le diagnostic prénatal peut se transformer en une pratique qui tendra à éliminer les personnes pour des petits défauts qu'on peut avoir à la naissance, qui ne menacent même pas la vie des enfants qui doivent naître. Donc, ça dépend de quel principe d'éthique générale ou particulière un médecin s'inspire dans sa pratique quotidienne de la médecine.
Selon vous, l'hôpital, c'est le vrai malade ?
Bon, l'hôpital, c'est le vrai malade parce qu'il doit être au centre de toutes les actions, de toute la politique, de toute la programmation du système de santé. Alors, le danger que nous courons maintenant, c'est le malade, dans beaucoup d'hôpitaux, il se sent comme des numéros. Ça me frappe beaucoup quand je visite certains hôpitaux, vous trouvez des numéros. Alors pratiquement, le malade n'a pas de nom. C'est comme s'il n'existait pas, le malade. Et donc, l'hôpital doit être un lieu de très grande humanisation pour pouvoir accueillir et favoriser chez le malade ce sentiment qu'ils sont au centre des soins, de l'attention des professionnels de la santé. C'est ça un des problèmes, que avec la technologie, nous avons une très grande technologie aujourd'hui dans les hôpitaux. Prenez par exemple ce qu'on appelle le DRJ, ça veut dire vous avez telle pathologie, vous restez 2 jours. Tout le monde ne vit pas dans les mêmes conditions. Les pathologies dépendent d'une personne à une autre. Mais on a fait les comptes, on a fait le calcul, et on est en mesure de payer autant. Plus de ça, on ne peut pas. Et alors, vous voyez, tout ça, ça déshumanise un peu le milieu hospitalier. Et la personne malade n'est plus au centre, devient, disons, un moyen. Pas une fin, la fin vraiment de toutes les activités qui ont lieu dans l'hôpital. Je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui a besoin justement de retrouver la dimension, je dirais, pastorale et spirituelle de la maladie, de la souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de solitude, on a la technologie, on a des avancées extraordinaires, mais les gens sont seuls, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de gens qui risquent de mourir, pas tellement en premier lieu pour les maladies pour lesquelles ils entrent à l'hôpital, mais par la solitude, et ce qui est une maladie terrible, par ce sens de se sentir presque inutile dans un monde qui ressemble chaque jour à une industrie, à une grande technique. Là. La deuxième chose, c'est qu'il faut beaucoup de solidarité. Il faut essayer de travailler, même au niveau des pays, sur un système de santé qui prenne en compte les besoins de tout le monde. Donc un système solidaire et social. Or, avec la crise que nous avons, donc on a moins de ressources. Le risque, c'est que les responsables de la collectivité, on ait moins de ressources. Et qui va en souffrir, le premier, c'est le pauvre.
La santé, il en était question pour le prix international Giuseppe Sciacca 2012 qui a été remis samedi 10 novembre à Rome à un petit garçon de 11 ans, reconnu comme un modèle positif pour la société. Retour sur la figure de ce jeune Américain avec Xavier Sartre.
C'est une histoire de courage et d'espoir, celle d'un garçon de 11 ans, Cody McCasland. Né prématuré, sans os des tibias et des genoux, les médecins décident de l'amputer à 15 mois de ses 2 jambes. Cela lui évite le fauteuil roulant en lui permettant d'utiliser des prothèses. Un faux départ dans la vie qui lui donne en réalité de l'élan. Avec abnégation et sourire, Cody s'adonne à de nombreux sports dans lesquels il excelle malgré son état. Natation, course, football, golf, karaté, hockey, escalade, équitation. Son énergie et sa joie de vivre, il la met également au service des autres, aidant d'autres enfants handicapés. Il devient ainsi le porte-parole de la Challenge Athletes Foundation, organisation qui se dédie à la levée de fonds pour aider les personnes avec des handicaps à pratiquer un sport. Le ministère américain de la Défense l'a même choisi pour réconforter les militaires mutilés. Cody ne s'économise pas, participe à des initiatives et des courses, récoltant de l'argent pour la cause des enfants dans son cas, dispensant sourire et courage. C'est cet exemple qu'a souhaité salué et récompensé le jury du prix Sciacca, celui de l'espoir rendu à tous ceux vivant des situations difficiles, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cody unit à la ténacité, à la détermination et à l'esprit de sacrifice une grande sensibilité, une joie de vivre et un altruisme rare. Pour le jury du prix Sciacca, une splendide icône d'athlète incarnant la quintessence de l'esprit sportif et olympique.
L'assemblée plénière d'automne de la Conférence des évêques américains se tient à Baltimore dans l'État du Maryland du 12 au 15 novembre. Le nouvel archevêque de la ville, Mgr William Lowry, a été nommé à ce siège au début de l'année. Il est président de la commission ad hoc pour la liberté religieuse. L'ordre du jour de cette session est assez dense. Les évêques américains devront débattre d'une déclaration sur les questions économiques et du monde du travail rédigée par la commission sur la justice sociale dans un contexte de montée de la pauvreté et du chômage aux États-Unis. Les travaux ont été ouverts par le cardinal Timothy Dolan, président de la conférence épiscopale, et par le nonce apostolique Mgr Carlo Maria Vigano. Les évêques devraient voter une motion appelant les fidèles à renouer avec le sacrement de pénitence, trop négligé aux États-Unis. Ils seront également invités à réfléchir sur l'usage des nouveaux médias et sur les questions liturgiques. Une assemblée plénière d'automne des évêques américains à suivre dans nos prochaines éditions. Et ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à le retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. N'oubliez pas également notre toute nouvelle page Facebook. À très bientôt.